Donc, je m'appelle Rainer Kazik, je suis géographe humain, travaillant actuellement à Munich, et je me sens assez proche lié avec le Cresson, je suis chercheur associé. Je voudrais vous présenter dans quelques réflexions ou quelques éléments d'un projet de recherche sur la perception esthétique de la ville et en ville que je mène actuellement. C'est peut-être important de situer un petit peu le point de départ de ce que je vais présenter. Ce projet partit d'observation d'une augmentation de l'importance de l'esthétique dans la société contemporaine, qui était déjà mentionnée tout à l'heure. On peut dire que ce sont la production des images, mais aussi la construction des identités autour des pratiques esthétiques. Et on peut aussi observer un gain d'importance dans la production de l'urbain, c'est devenu un critère important, au moins en Allemagne, mais je crois au niveau international, dans les sociétés du Nord. Mais en même temps, il y a un manque de savoir sur le côté de la réception esthétique. Donc, on sait très peu de choses, ce que les citadins font sur le plan esthétique, comment ils reçoivent esthétiquement l'urbain. Et c'est sur ce point que mon projet et focaliser. Peut-être c'est important de dire aussi, j'ai mis comme deuxième point que c'est un projet en géographie humaine, parce que ça signifie que je suis deux choses. D'abord, que je suis plutôt mené pas seulement à une réflexion théorique, sinon aussi à une recherche empirique. Donc j'essaye dans mon projet d'aborder cette perception aussi empiriquement, et ça m'a porté aussi à développer un cadre conceptuel qui permet à saisir, à vraiment faire un projet empirique. Géographe humaine signifie aussi d'être débutant dans l'esthétique. La géographie a abandonné l'esthétique dans les années 60 ou 70, où c'était encore un concept important. Et on peut dire que je suis un petit peu un des premiers, donc je ne sais pas, c'est à vous de juger si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu et ce que j'ai combiné. Et finalement, j'ai trop tard lu l'invitation ou le grand cadre. Donc j'ai une position un petit peu ambivalente par rapport à cette journée. Je crois que c'est vraiment une contribution par rapport à la question d'aujourd'hui, c'est l'esthétique quotidienne, parce que je vais montrer mon approche. Mais la question de dépaysement, de dépaysement n'est pas vraiment présente, ou peut-être présente d'une manière un peu cachée, et on va voir dans la conclusion si elle est vraiment présente. Je vais vous présenter donc un peu les éléments du cadre conceptuel que j'ai, disons, développé, mais j'ai emprunté, et après, juste quelques petits résultats empiriques. Je pars dans mon cadre conceptuel du philosophe Martin Ziel, en Allemagne incontournable, ce qui est l'esthétique de la réception. Et j'ai emprunté son idée de partir avec une définition minimale de l'esthétique. De partir d'une définition minimale pour nommer ensuite, à la base de cette définition minimale, les variations de forme de réception esthétique. Le premier élément de ma définition minimale esthétique ordinaire est de la comprendre comme un épisode. C'est le sociologue Gerhard Schulze, allemand, sociologue culturel, qui a développé, mais qui a mis en avant cette idée qui est aussi déjà discutée, de bien aussi avoir focalisé sur la temporalité d'un événement esthétique, avant tout quand on parle du quotidien, parce que ça peut être long ou court dans la durée. Pour décrire un épisode esthétique, je n'utilise pas le concept de perception, qui est assez présent dans la discussion, dans l'esthétique de la réception, parce qu'elle a une tendance d'exclure le côté social de l'esthétique. C'est souvent pensé d'une manière très générale, très anthropologue, et ça m'aide très peu à capter aussi le cadre social. Donc, mon concept central pour concevoir un épisode sont deux concepts, c'est l'attention et la pratique. Ma conception de l'esthétique ordinaire par l'attention vient d'une autre approche de la conception de la réception esthétique, qui le décrit comme un rapport au monde, Mais ce concept rapport au monde est une idée difficile à intégrer dans la pensée de géographie humaine. Et j'ai trouvé que l'attention était une approche relativement proche de cette idée de rapport au monde qui est plus facilement en communication avec les concepts déjà existants. Et la conception de l'esthétique comme pratique, qui est le deuxième élément, est déjà implicitement présent dans beaucoup de travaux récents sur l'esthétique de la réception. On y parle souvent des processus de réception, sans vraiment nommer qu'il s'agit d'une pratique. Et c'est le travail très récent de la philosophe esthétique allemande Eva Schürmann sur la pratique de la perception qui m'a reconforté dans l'idée d'aborder l'esthétique avec le concept du pratique. Mais contrairement à Schürmann, je comprends l'esthétique ordinaire pas comme épisode pratique de perception, sinon je prends une autre approche. Je comprends l'esthétique ordinaire comme un épisode pratique de la vie quotidienne urbaine qui sont caractérisées par la présence d'une attention esthétique. Donc c'est une pratique qui est accompagnée par la présence d'une attention esthétique. Il y a finalement, pour arriver à cet élément de définition minimale, il y a trois éléments de cette attention esthétique. Le premier, c'est le sensible au premier plan. Je crois que c'est le concept très actuel en venant de Baumgarten, très ancien en venant de Baumgarten. Deuxième élément, c'est une focalisation sur la forme d'un phénomène, de manière très très générale. Et le troisième élément, c'est une sorte d'arrêt sur l'accomplissement de l'attention. Donc il y a un fort ancrage dans la présence de cette attention. Je crois à cette idée de l'arrêt sur l'accomplissement de l'attention. C'est aussi lié à l'idée de l'esthétique, que c'est quelque chose hors de l'ordinaire parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de s'arrêter sur l'accomplissement d'une attention. Donc c'est une situation assez spéciale. Et à la base de cette définition minimale, je vais vous présenter trois dimensions différentes qui essaient de montrer des variations. La première, ici je m'appuie de nouveau sur Martin Seel, c'est une différenciation selon la forme de savoir ou la forme de représentation qui est impliquée. Non. Martin Seel, c'est déjà que Jean-François Aubillard avait présenté, fait la distinction de trois manières différentes de savoir appliquer. Il part d'une apparition artistique, si on fait référence, si l'attention esthétique est accompagnée par une imagination ou par une réflexion ou par un jugement qui a son référence dans l'art ou dans la théorie de l'art. Il parle d'une apparition atmosphérique, mais j'ai changé un petit peu ce terme parce que ça, on est facile à confondre ça, parce qu'il parle pas du tout des ambiances ou des atmosphères dans la conception de Böhme, parce qu'il dit ici, il parle d'une apparition sociale quand il y a une référence ou forme ou expression de vie. Donc, par exemple, je peux voir un mouvement et je dis à la personne qui a ce mouvement, ça me fait penser à une certaine culture urbaine ou à une certaine pratique urbaine qui peut avoir une forme. Donc, ça se basait sur l'idée que chaque forme de vie ou chaque expression sociale peut aussi prendre une forme. Et il y a finalement, j'ai appelé ça la seule apparition ou l'apparition pure. Comme disait Jean-François Ouvrière ce matin, c'est quand il y a une absence de réflexion ou d'imagination. Là, il y a une deuxième dimension que je différencie, c'est l'implication, ou disons plutôt la forme de la sollicitation ou de l'implication du corps dans l'attention esthétique. Et ici, c'est plutôt mon propre idée, en réunissant plusieurs approches d'origine très très variée. D'abord, j'appelais ça l'attention esthétique pure, c'est qui est caractérisée par une distance au monde et aussi à son propre état d'âme. Donc il n'y a pas des émotions en jeu. Il y a ce qui peut être en jeu, c'est une réflexion, un jugement. Mais ça touche, sinon, ça implique pas le corps autrement. Après, il y a une attention esthétique sentimentale qui est dernièrement prononcée de plus en plus souvent, très, très, très célèbre par un philosophe esthétique, Liesmann, un autrichien, qui a prononcé cette idée de l'attention esthétique sentimentale en disant, si on veut comprendre l'esthétique ordinaire, il y a très souvent les émotions où on est touché par un phénomène, par une attention esthétique. Donc il faut prendre conscience de ça. Et il a écrit un livre tout en définissant des différentes formes d'attention esthétique sentimentale. Il y a troisièmement l'attention esthétique aux ambiances, ou qu'on peut peut-être aussi nommer attention esthétique de présence, parce que c'est une attention qui est une autre forme de focalisation. Les deux premières sont focalisées sur des objets hors de moi. Ça peut être une personne, ça peut être un déroulement des activités. Et l'attention esthétique aux ambiances, c'est vraiment la focalisation sur la forme d'une ambiance ou sur la forme de ma propre présence dans un environnement. Et quatrièmement, c'est l'attention esthétique à ses propres activités. Il n'y a pas... C'est pas l'idée de coprésence. Par exemple, c'est sur une attention sur la façon de réalisation d'une activité, sur une façon de conduire, sur une façon de marcher, sur soi. Cette dernière idée est assez souvent prononcée dans la philosophie de l'art de vivre, dernièrement en Allemagne. Et une dernière dimension, c'est la portée de la pratique esthétique. Ici, j'ai différencié trois dimensions. La première, c'est une expérience esthétique. Normalement, selon Dewey, c'est une attention avec une signification biographique. Donc, il y a une modification, un changement. Mais je trouve que c'est très, très rare. Il y a très peu de situations qui correspondent à cette demande très, très... qui demande beaucoup. Donc, j'ai introduit aussi une autre que j'appelais une pratique esthétique habituelle ou occasionnelle qui est seulement caractérisée par la référence à un système de savoir sur les formes de l'art ou sur les formes de la vie déjà établies. Donc là, ce n'est pas un changement, c'est seulement une activation de quelque chose qui est déjà présent. Et finalement, une dernière idée, c'est une fonctionnalisation de la pratique esthétique, aussi assez négligée, mais c'est quand même une pratique bien sûr déterminé, mais qui peut avoir une fonction pour les autres activités qui vont suivre, ou les autres pratiques qui vont suivre, oui, normalement qui vont suivre, ou qui sont parallèlement en route. À la base de cette, disons un petit peu, schéma, qui est plutôt un heuristique qu'un schéma exhaustif, j'ai abordé ma recherche en essayant de discriminer et de décrire des épisodes de pratiques esthétiques. Je vais vous en présenter trois qui ne sont pas encore très très profonds, mais qui vous donnent peut-être une idée où ma recherche pourrait mener. La première, j'ai nommé ça, c'est la architecture passée. C'est une, au fond, c'est une pratique de visite et qui change son caractère par le fait qu'elle est effectuée avec des amis en venant de l'extérieur. Et à Cologne, ça se passe par exemple pas par la visite de la cathédrale juste à côté de la gare, qui est banale, sinon par une visite ou par un parcours de visite des églises romanes qui sont considérées comme le véritable patrimoine de la ville. C'est une pratique qui est appliquée, qui est pratiquée par des gens d'une certaine culture, par un certain savoir, du fait qu'ils savent ou qu'ils ont une connaissance de cette architecture classée. Et cette visite se passe de forme dans un parcours relativement bien défini ou presque habitualisé, toujours quand il y a un visiteur. Et les formes, pendant cette visite, on visite plusieurs églises et les formes architecturales sont commentées par les hôtes en prenant l'initiative d'expliquer l'architecture des églises et en discutant sur les différentes églises sur place. Et j'ai appelé cette pratique une pratique de distinction parce que les deux interlocuteurs qui m'ont parlé de cette pratique ont mentionné que ces formes de pratique, c'est une pratique parfois vraiment dure, une pratique longue, mais ils ont toujours prononcé l'idée que c'est quand même les autres, les invités, ils aimaient bien aussi de faire cette sorte de visite et ça serait quand même, on avait les mêmes bases pour cette sorte, pour pouvoir subir presque cette sorte d'activité. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que bien sûr la distinction, l'esthétique comme moyen de distinction, c'est bien connu depuis Bourdieu. Mais Bourdieu ne mentionne jamais des éléments urbains. Donc pour moi, c'était une façon de pouvoir intégrer un élément urbain qui fait objet d'une pratique esthétique et qui sert à la distinction. Il y aurait beaucoup de choses à ajouter que je n'ajoute pas, pourquoi pas l'architecture moderne. Et je crois que je suis encore dans le temps. La deuxième forme, c'est complètement différent, j'ai appelé la fictionnalisation du désagréable. Ça illustre une pratique de passage qui prend soudainement une dimension esthétique. Et c'est un passage, ça c'est seulement sur un cas, mais je crois qu'il y a quand même un cas, il est exemplaire pour les autres cas, je vais encore aller à la recherche pour en avoir une confirmation que c'est une sorte de type. C'est un passage de nuit, dans ce cas à Cologne, dans un lieu assez désagréable, c'est la sortie d'une station de métro sous un pont qui n'est pas très bien éclairé, c'est assez tagué, ça sent très, très mauvais l'urine. Et le passage de cette situation se transforme dans une pratique esthétique suite à une imagination qui est créée, qui crée un lien entre la situation et une série policière allemande, c'est pas Derrick, c'est Tatort, qui joue aussi à Cologne et qui a véritablement beaucoup désagréable. Et cette imagination, donc attention, on, accompagnée par cette imagination, contribue à une fictionnalisation de la situation et les passants se sont presque dans ce film policier. La situation désagréable devient cool, urbain, et il crée un rapport de distance par rapport au désagréable par lequel le passant est presque surpris. Parce que dans son discours, il dit « oui, c'est un peu bizarre, mais… » Et pour moi, c'est un épisode intéressant parce que l'intégrer dans la discussion sur le développement urbain actuel, il y a beaucoup de contributions qui prononcent une augmentation du sentiment d'insécurité qui est lié à la saleté en ville. Et cet exemple me montre bien que, comme un petit peu un contraire, ou une logique contraire, comment une situation de saleté, par cette présence d'attention esthétique, un passant qui pratique ça comme ça, peut développer une sorte de distance et un petit peu me montre les conditions que ça, c'est pas toujours le cas s'il y a une certaine forme de savoir en jeu. Il y aurait aussi beaucoup de choses, il y a encore beaucoup plus de situations de fictionnalisation, mais j'ai trouvé cette fictionnalisation du désagréable pour le moment le plus intéressant à le présenter ici. Et malheureusement, je n'ai pas davantage à cause de mon déménagement de Munich à Bonn, je n'ai pas eu davantage de photos pour illustrer que c'est vraiment une situation pas très agréable. Et la quatrième. Je suis désolé, oui. J'étais déjà presque arrivé à la conclusion. Mais c'est... Le troisième exemple, j'ai appelé le mood management par résonance culturelle. Et c'est une pratique de visite de bar. Et elle devient une pratique esthétique parce que le bar est visité avec l'idée de plonger, pour le temps de la visite, dans un milieu de personnes créative que la personne ou les personnes supposent qu'il y a dans ce bar. Donc ils pensent que ce bar est un milieu de personnes créatives et ils plongent là-dedans. Et cet épisode, je suis tombé sur cet épisode dans un entretien avec un designer relativement connu qui m'a expliqué qu'il visite systématiquement ce bar, très souvent à midi, où il a visité quand il avait encore un bureau dans un endroit qui n'avait pas un rayonnement positif pour lui, pour se manger à midi, pour plonger dans cette ambiance, et finalement pour emporter avec lui un petit peu de la créativité qu'il a sentie et qu'il a fait résonner dans son bureau pour après pouvoir mieux travailler. Et ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est une attention esthétique aux ambiances, parce que ce ne sont vraiment pas les discours avec les personnes créatives, parce qu'ils ne parlent pas avec eux, ils changent des idées, c'est vraiment tout simplement la présence et cette résonance, que j'ai appelé sa résonance, qu'il emporte après avec lui dans son bureau. Et j'ai emprunté l'idée de résonance, c'est pas mon idée, d'un collègue géographe et sociologue anglais, Vincent Mella, qui a fait un très très joli travail sur les enclaves urbaines et qui a utilisé ces termes il a utilisé ce terme dans sa recherche sur le quartier homosexuel à Manchester et sur des malls chinois à Vancouver, pour caractériser le mécanisme de création des enclaves par un senti de coprésence de personnes qui partagent des pratiques similaires. Donc, il a montré que, par exemple, le village gay à Manchester s'est senti plus ou moins gay, plus ou moins homosexuel, mais ce n'est pas quelque chose qui est analysé, c'est vraiment quelque chose de senti. Et il a fait une étude un peu similaire dans les malls de Vancouver, où c'est autour de cette résonance autour de la chinoisité, on peut dire, parce qu'il y a plusieurs présences de chinois ou la présence de certains dialectes. Les personnes ne savent pas pourquoi, mais parfois ils se sentent plutôt en Chine et une autre fois plutôt dans un mall Hong Kong, et c'est pas la même chose. Et cet épisode du mood management, elle était intéressante pour moi parce qu'elle peut être une contribution intéressante dans la vive discussion sur les villes créatives qui est en route actuellement. Parce que suite aux travaux de Richard Florida, la dite classe créative est devenue un mot clé dans la discussion sur le développement urbain, au moins en Allemagne, mais je crois dans beaucoup de pays dans l'Europe. Et la qualité du lieu, ou comme l'appelle Florida, un certain people climate, sont des éléments importants pour attirer la classe créative, selon Florida. Et beaucoup de villes essaient maintenant de mener une politique de développement urbain, créer une qualité des lieux sans exactement savoir comment le créer. Mais la question importante de recherche reste ouverte, comment la qualité de l'environnement intervient dans le processus de travail créatif. Et je trouve que le mood management est une première trace d'explication comment ça pourrait fonctionner et peut-être pour comment un people climate joue vraiment un rôle de la créativité des personnes. Et maintenant, pour conclure, ça ne marche pas, la conclusion. Voilà. En plus, ça n'a pas fonctionné quand j'appuie sur la touche pour conclure. Donc, pour finir, peut-être j'ai. Bon, la question, j'ai vraiment des problèmes à conclure. Donc, quelle était peut-être la contribution d'une analyse, quelle pourrait être la contribution d'une analyse des pratiques esthétiques à la compréhension des ambiances en partage? Peut-être la première partie. Par rapport à cette question de dépaysement, peut-être la focalisation sur l'attention aide peut-être à penser le dépaysement autrement. Il ne faut peut-être pas se... Parce qu'on a peut-être très très souvent à voir avec un dépaysement qui vient de l'intérieur, parce qu'on ne sait jamais avec quel manque d'attention une personne est présente dans une situation. C'est peut-être ma petite réponse sur le dépaysement, mais qui est minuscule. Et la conclusion, plutôt par rapport à la compréhension des ambiances urbaines en partage, je crois peut-être le mood management et la fictionnalisation du désagréable ont montré deux chemins différents pour une ambiance partagée. La fictionnalisation du désagréable a montré que peut-être qu'un savoir imaginaire partagé est nécessaire ou obligatoire pour avoir une ambiance partagée, parce que pour pouvoir vivre vraiment cette situation dans cette sortie de métro comme une fictionnalisation, il faut avoir accès à une représentation, il faut connaître cette sorte de film, et il faut aussi pouvoir les activer dans la situation en sortant de cette bouche de métro. Et peut-être le mood management a montré que une identité qui s'exprime aussi dans une sorte de corporalité partagée qui est à la base d'une dernier mot à dire, ce qui est peut-être important pour un géographe, c'est que cette approche par les ambiances, par les pratiques montre un petit peu le caractère constructiviste et relationnel du concept des ambiances et calme des rapproches qui sont un concept quasi essentialiste qui est de temps en temps utilisé dans la discussion anglo-saxonne des géographes sur le concept des ambiances.